Bonjour à tous, c'est Rose. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a fait du bien à la tête et au corps. Adieu complexe de Malika Ménard nous plonge dans les pensées contradictoires de l'être humain qui voudrait cheminer vers l'acceptation mais qui se perd dans le doute, le jugement, le sabotage et la détestation de lui-même trop souvent. Malika reçoit des personnalités fortes qui, comme elle, ont réussi à sortir de ce mode de fonctionnement qui est la cause de la majorité de nos comportements destructeurs. On se juge, on se déteste, on s'anesthésie, on se punit, alors on culpabilise. Et c'est le retour au jugement. Ce cercle vicieux, on le connaît bien nous ici, dans Contradiction. Et Malika le décortique avec simplicité et intelligence avec ses invités.
Tu dis aussi que très tôt, tu as eu la sensation que parce que tu étais grosse, il fallait que tu développes d'autres qualités.
Ah oui. Bien sûr.
Être la plus intelligente, la plus drôle.
Bien sûr.
C'est réussi, hein. Je rigole bien. Depuis tout à l'heure, on peut dire que je rigole bien. Donc
J'adore. Ouais, clairement, bah, quand t'es grosse, tu sais faire mille trucs. J'ai fait de la natation à haut niveau, je sais faire du tennis, j'ai lu un nombre incalculable de livres, j'ai voyagé. En fait, quand t'es grosse, t'as intérêt à avoir un bagage comme as. Tu compenses.
Je vous laisse découvrir le tout premier épisode du podcast Adieu complexe de Malika Ménard.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Double monde, création.
Il y a encore quelque chose qui reste à travailler et il y en aura toujours. Toute la vie, on sera addict et toute la vie, il y aura des choses à travailler. Ce qui m'a sauvée, c'est de rester résiliente en fait, face à ça et surtout honnête avec moi-même, d'arrêter de me trouver des excuses.
Je suis Rose et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction? Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquels nous raccrocher? Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles? Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Marine nous secoue dans tout notre être, que l'on soit fille, garçon, addict, non-addict. Marine se bat contre la boulimie, la drogue, la société, la honte, la culpabilité, la peur de grandir. Son obsession de se remplir s'apparente tantôt à des pulsions de vie, tantôt à une envie d'en finir. Et personne ne peut comprendre parce que Marine est trop solaire pour que l'on imagine sa déchéance solitaire. Elle découvre la cocaïne à Los Angeles et les afters hollywoodiens compensent un temps ses troubles alimentaires. Entre 22 et 26 ans, elle mange une fois par jour, fréquente les narcotiques anonymes, réfute leurs principes, se perd à Berlin, se scarifie une nuit, se devine bipolaire mais sans grande conviction. L'amour lui donne le courage de se confronter à ses démons, mais ça ne lui suffit pas. Sur un chemin chaotique mais nécessaire, elle expérimente la plante sacrée ayahuasca au Mexique, dans la jungle. Au milieu de nulle part, elle comprend pour la première fois qu'elle existe. Mais ça aussi, ça ne lui suffira pas. Elle ouvre son cœur au son, comprend les énergies et ses peurs avec, auxquelles elle appose les acronymes de projection erronée utilisés comme réels, se connecte à l'invisible. Elle apporte des soins aux autres désormais par le biais de son Human Project. L'éveil est un chemin, un travail de l'ombre, dit-elle. Elle est honnête, impermanente, humaine. Elle accepte ses contradictions mais ne se condamne pas à l'addiction. Entre sobriété et quête de compréhension, Marine Giovannini éclaire nos ténèbres de sa lumière sans l'ombre d'une certitude. Bonjour Marine.
Bonjour.
Je suis heureuse de te recevoir dans Contradiction. Je t'ai découverte dans un autre podcast qui s'appelle Espoir. Tu partages un témoignage extraordinaire et qui m'a bouleversée et qui a bouleversé toutes les personnes auxquelles je l'ai envoyé. Il est incroyable, allez écouter, ça s'appelle Espoir. Et donc, c'est un épisode sur les troubles du comportement alimentaire.
Ouais.
J'ai l'habitude de demander à mes invités quelle est leur définition de l'addiction.
Pour moi, l'addiction, c'est quand on ne peut plus faire quelque chose que d'autres feraient normalement, sans que y ait cette sorte de pulsion qui vienne et cette obsession et ces pensées obsessionnelles autour de ça. Si quelque chose commence à devenir essentiel à notre vie et qu'on n'arrive plus à s'en passer, sans culpabiliser, et qu'on a des sortes de pulsions qu'on pourrait presque tuer père et mère pour assouvir ce besoin, pour moi, c'est ça l'addiction.
Et tu l'as connu, parce que dans ce témoignage, moi, j'ai été frappée, en fait, par cette pulsion, justement, que parfois, en fait, je n'ai pas ressenti moi-même, je n'ai pas ressenti cette façon-là, ou alors je n'ai pas cette honnêteté, il y a un déni encore chez moi. Je ne me rappelle pas avoir eu une pulsion, il faut que je consomme tout de suite et maintenant. Et toi, il y a ce truc-là, ça commence, en fait, par une anorexie, mais qui est induite par, tout simplement, ta morphologie, qui est d'être grande et donc d'être plus grande que les autres à un certain âge et qui, toi, finalement, fait que tu es au-dessus de la courbe du poids, c'est ça ?
Oui, en fait, j'ai toujours été super complexée par mon physique. Depuis enfant, hein, je me rappelle, je tirais sur mes caleçons cyclistes là, quand j'étais au centre aéré l'été parce que je voyais des filles de mon âge dont les cuisses ne touchaient pas le bord. Et donc, je cassais les coutures pour que ça devienne lâche et que moi aussi, mes cuisses ne touchent pas le bord. Et ça me faisait me sentir mieux. Et en fait, j'ai toujours été très grande. Et du coup, c'est vrai que moi, je ne voyais pas la différence de taille forcément comme quelque chose de spécial. Mais quand moi, je pesais 36 kilos et qu'elles en faisaient 24, moi, je ne voyais que le poids. Quand elle me disait « je pèse 24 kilos », moi, j'avais 8 ans, j'étais déjà complexée.
Tu te sens robuste, tu dis.
Oui, c'est ça. C'est pas moi qui me sens robuste. C'est toutes les visites médicales où, en fait, on arrivait tous, on se mettait en culotte. Et en fait, ils cochent des cases. Et moi, j'étais au-dessus de la moyenne et en taille et en poids, ils cochent des cases robustes.
Il y avait une case robuste.
Oui, oui, oui.
Waouh. Et ça veut dire l'étiquette que tu te prends sur le front, là,
moi,
robuste.
C'était horrible. C'était horrible. Mais c'est pareil, c'est refoulé parce que on a 8 ans, 10 ans, 12 ans. C'est des petites choses, on ne se rend pas compte encore. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup dansé. Quand j'ai arrêté la danse, j'ai pris du poids parce que j'avais 16 ans. Moi, je voulais sortir. J'avais plus envie de faire 15 heures de danse par semaine. Et je n'étais pas Zidane de la danse non plus. Donc, au bout d'un moment, j'ai choisi les études. Et au final, oui, en fait, j'ai un peu grossi, voilà, j'ai dû monter à maximum 60 kilos.
Pour quand même 1m80 presque.
Non, je fais 1m72.
Mais... Alors, c'est parce que je fais 1m60 que dès que je te vois arriver, j'ai cette impression, pardon, c'est une déformation personnelle.
Mais bon, c'était, voilà, j'avais 16 ans, je faisais plus de danse, j'avais l'habitude de manger beaucoup de McDo parce qu'on se dépensait beaucoup. Et en fait, voilà, ça a commencé comme ça, mon anorexie. Je pense que je me suis retrouvée avec 15-16 heures de libre dans mon emploi du temps tout d'un coup.
Ah, ça, c'est la base, hein, je pense. Ouais. Je pense que pour une addiction, il faut non seulement avoir un terrain propice, mais il faut avoir le temps.
Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai commencé à contrôler. Je ne me rappelle plus, c'est fou, mon cerveau, il a un peu éliminé des passages. Je sais juste que ça allait très vite et ça allait très bas. Et ensuite, j'ai quand même voulu... Donc, je n'ai pas fait ma terminale. J'ai quand même voulu passer mon bac.
Avant la terminale, déjà, c'est là où tu es hospitalisée ?
Ouais.
À Lanval, parce qu'on a ce point commun aussi d'être niçoise.
Ah, enfin,
toi,
oui.
T'es plutôt Monaco.
Ouais. Ouais.
Donc Lanval, moi, je connais, toutes mes copines ont accouché là-bas, donc je connais très bien. Bah. Et sur la promenade des Anglais, il y a une belle vue. Mais malheureusement, ce n'était pas que ça, il y a aussi un hôpital psychiatrique. Et on a ce point commun aussi d'avoir passé quelques temps dans des endroits où on a l'impression qu'on n'appartient pas à ça et c'est d'une violence. Moi, j'ai préféré aussi rayer. Je vois que tu passes dessus, d'ailleurs, tu ne me racontes pas, mais c'est-à-dire que cette hospitalisation où on te dit si tu faisais 37 kilos, enfin, tu arrives jusqu'à 37 kilos, et on te dit si tu fais 42 kilos, tu vas pouvoir sortir.
Non, ça a été en plusieurs étapes, c'était pire que ça. C'est qu'on m'avait mis un contrat de poids avec une pédopsychiatre de Lanval. Si je faisais moins, je crois, de 42 kilos, ils m'hospitalisaient. Et moi, je suis arrivée un jour d'été, après mes vacances, où je faisais, je crois, 42,8 ou un truc comme ça. Elle m'a hospitalisée. Elle a dit à ma mère, tu vas chercher ses affaires, on la garde. Mais moi, c'était première trahison. Pour moi, j'étais pas passée en dessous du contrat de poids. Et en fait, là, on m'a dit, si tu dois faire 52 kilos pour sortir. Donc, j'avais 10 kilos à prendre. Et je me disais, mais ma terminale commence dans 2 semaines, c'est mort. Et en fait, à commencer ce rapport à la nourriture bizarre, c'est que finalement, j'y suis restée 3 semaines. J'ai pris 10 kilos en 3 semaines.
Wow.
Personne ne s'est posé la question de qu'est-ce qui s'était passé, comment...
Oui, parce que ce n'est pas possible de prendre 10 kilos avec ce qu'ils te donnent à manger. Tu as fait,
fait
des stratagèmes.
Oui, je donnais des sous même à la dame de ménage. Je faisais envoyer des sous dans des lettres par mes amis de l'époque parce qu'ils ouvraient les lettres. Mais si on scotchait le billet, ils ne s'en rendaient pas compte. Enfin, non, j'ai fait des stratégies assez
déjà,
phénoménales.
C'est hyper important de voir que quand on te donne un objectif de quelque chose que tu désires profondément, c'est-à-dire rentrer en terminale, passer ton bac peut-être, je ne sais pas quel est le désir profond là, eh bien, une anorexie qui ne veut pas se nourrir se met à prendre 10 kilos en 3 semaines. Comment on t'explique ça?
En fait, je ne supportais pas qu'on décide pour moi. Je ne supportais pas d'être enfermée. C'était horrible, cet endroit.
Donc, c'était le désir de liberté, en fait.
Ouais. Honnêtement, on n'en parle pas, mais il n'y avait pas de service. Enfin, je ne sais pas si c'est mieux, finalement, ou pire. Mais en tout cas, j'étais avec des enfants. C'était donc une psychiatrie d'adolescents. J'étais avec des enfants malades, mentaux, enfin, vraiment psychiatriquement atteints. Des gens qui hurlaient. Il y a un monsieur, enfin un jeune qui était venu dans la nuit se branler avec un de mes t-shirts. Je me suis réveillée, il était à côté de moi. Enfin, c'était un endroit terrible. Moi, je ne voulais pas rester. Je n'avais pas le droit de lire parce qu'il disait que lire, ça me faisait brûler des calories. Je devais rester comme ça, regarder la télé toute la journée. C'était atroce. J'ai pleuré une fois. On m'a donné des sortes de cachets. Je me suis endormie dans ma soupe. Enfin, en vrai, c'était un endroit horrible. Et donc, je me suis dit, mais si je reste là, je meurs. Et je voyais tous les gens qui étaient là depuis trop longtemps. Et en vrai, ils les bourrent tellement de médicaments que c'est pas possible, en fait. Et je me suis dit, mais c'est soit la vie, soit la mort. Et dans tout mon malheur, j'ai toujours une pulsion de vie. Et je me suis dit, si je reste là, je meurs.
C'est ça qui nous sauve, hein, l'addict. Dans une situation d'équanimité, il faut qu'on monte ou qu'on descende. Bon, là, ce moment-là, moi, je l'ai vécu aussi quand j'ai été hospitalisée pour dépression. Et j'ai eu quelqu'un qui est rentré dans ma chambre aussi dans la nuit, en hurlant. Et pareil, le lendemain, j'ai dit, il faut que je parte.
Ouais. Non, c'est dur, hein. Mais je cachais tout, je cachais mes biscuits dans le contrefond du baby-foot. Enfin, vraiment, mais je prenais ça comme un jeu, je pense que je ne m'en rendais pas compte. Et je me sentais beaucoup plus intelligente que tout le monde. Et je sors. Je m'inscris au bac, j'ai juste le temps de faire ça. Et je dis à ma mère, je ne peux pas en fait, je n'y arrive pas, je perds 10 kilos en 2 semaines. Ça ne va pas, je ne suis pas du tout guérie. Et je me fais, cette fois par choix, interner dans un autre centre qui s'appelle les cadrans solaires, qui est beaucoup mieux pour moi, sauf que en fait, pareil, l'anorexie, c'est la manipulation. En fait, c'est un centre pour personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais il y a beaucoup d'obèses, très peu d'anorexiques. Et il y a beaucoup de gens qui fument de l'herbe, il y a beaucoup de gens des cités de Marseille. C'est une population vraiment différente de Lanval. Et moi qui arrive avec... je viens de Monaco, l'anorexique, enfin, j'étais vraiment pas du tout... Et en fait, il me disait, mais fume, ça te donnait faim.
Tu voulais avoir faim? En fait, tu n'avais pas faim quoi. Parce que l'anorexie, moi, ça me fascine.
Non.
Qu'est-ce que c'est, en fait, l'anorexie? C'est vraiment... Est-ce que c'est un contrôle de vraiment une souffrance ou alors justement pas du tout? C'est un plaisir de ne pas manger.
J'arrive plus à me souvenir.
C'est fou.
Mon cerveau, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'au début, il y a cette espèce de contrôle de... parce que tu ne ressens plus la faim. Et tu as ce truc et tu te vois maigrir et t'es en pleine possession de toi et il y a une sorte de, je sais pas, de pouvoir un peu intérieur qui se réveille. Mais après, comme dans toute addiction, il y a la perte de contrôle. Mmh. Et ensuite, tu ne peux plus manger. Tu n'y arrives plus. Dès que tu manges, t'es malade. Ton estomac, il s'est rétréci. Et je me rappelle plus, franchement.
Et tu ne supportes pas de te voir grossir de toute façon.
Ouais.
Tu es habitué de toute façon à avoir des os.
En fait, je me souviens même pas de mon corps comme ça, vraiment. Je pense que j'ai pas de photos et je pense que si je me vois, je vais pleurer.
Ah ouais.
Parce que j'ai aucun souvenir de me voir à ce point maigre. C'est-à-dire que là, je me dis, c'est presque 15 kilos de moins que ce que je suis aujourd'hui.
Et quand tu te regardes, toi,
quand
tu vois quoi?
Je me vois normal. Je me vois... Franchement, je trouve que j'ai beaucoup de chance.
Tu sais que t'es très mince.
Oui.
Ouais.
Et je trouve que j'ai beaucoup de chance que finalement...
T'as un super corps.
Ouais, j'ai pas trop de séquelles, que finalement j'ai pu, mais ça m'a pris 15 ans, renouer une relation avec la nourriture qui est sur des bases saines, ce qui ne veut pas dire qu'elle est saine tous les jours. On est des êtres humains. Donc, il y a des moments où, bah, là, quand on travaille beaucoup, on est stressé. Bah, ça arrive de manger une demi-baguette de pain, trois fruits. On n'est pas toujours... ça ne veut pas dire que je mange toujours des plats super équilibrés. Il y a aussi des jours où je vais manger quatre cookies et voilà. Mais je pense que c'est ça, être guéri aussi. Ce n'est pas en faire un... quelque chose, une obsession.
Puis il faut regarder une moyenne aussi. Il faut arrêter de regarder chaque jour... Des fois, on va pas faire de sport pendant une semaine, puis une semaine, on va en faire plein. Parfois, on a des semaines où on a envie de manger, d'autres moins. Ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment étaler sur le temps plutôt que de faire des focus. C'est ça, moi, qui m'a beaucoup pourri, c'est de me dire, ah, aujourd'hui, j'ai mangé ça, j'ai... de compter les calories. Mais avant d'arriver à ce moment-là où tu arrives justement à trouver, moi, je trouve ça extraordinaire de passer de... J'ai vraiment été fascinée et très troublée par ta façon de raconter l'anorexie, parce qu'en fait, il y a eu la cocaïne aussi, on va en parler, mais on sent vraiment que ta drogue, c'est la nourriture, c'est pas, c'est, y a rien d'autre.
Bah non, et suite à ça, en fait, donc j'étais dans ces cadrans solaires, et moi, j'allais, il y avait un trou dans le grillage, et j'étais la seule à pouvoir passer, et en fait, j'allais voler à Monoprix, désolée pour Monoprix, des sacs entiers de nourriture que je distribuais aux obèses en échange de shit, en fait. Enfin, ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps.
Et ça te donnait pas faim, finalement?
Mais pas du tout, ça m'endormait, je dormais. Et en fait, on allait, mais pareil, là-bas, on a fait un bordel sans nom, on volait les clés. Moi, j'étais allée faire un double quand j'étais en permission. On savait qu'il y avait du champagne, on entrait dans la salle des profs pour voler le champagne. Enfin, c'était. On faisait des aquamousses dans les douches. Enfin, c'est horrible, mais il y a beaucoup de vie dans ces centres, en fait. On se marrait.
Ah, tant mieux,
quand
même.
Je me rappelle que ce n'était pas le mouroir du tout. Mais en fait, ça ne m'a pas du tout sauvée. J'ai perdu encore plus de poids. Et c'est là où je suis descendue à 37 kilos. Et on m'a dit, on te retransfère à Lanval parce que tu es entre la vie et la mort. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, entre la vie et la mort? Et en fait, je suis arrivée à Lanval et il y avait cette fameuse psychiatre qui m'avait déjà suivie, qui m'a dit, ah tiens...
Qui t'avait trahi?
C'était pas la même, mais c'était la même équipe. Mmh. Et qui m'avait dit, ah ben tiens, je pensais que tu reviendrais dans un cercueil. Et je me suis dit, à cette époque-là, j'ai 16 ans, enfin 17 ans. J'ai pas la maturité de recevoir une telle remarque. Et en fait, je l'ai haï. Et je profite aussi de ce podcast parce que je trouve que c'est pour ça que j'ai décidé d'être aujourd'hui dans l'accompagnement. C'est que j'ai été accompagnée par des gens qui n'ont pas vécu ce que c'est d'être anorexique, qui n'ont pas vécu, que ce n'est pas une question de volonté. Il y a quelque chose d'autre, il y a une souffrance qui, tant qu'on ne guérit pas cette souffrance, la volonté n'entre pas en jeu. Et du coup, moi, à ce moment-là, ils m'ont fait un électrocardiogramme. On m'a dit, là, c'est grave. Et c'est vrai que je me sentais vraiment fatiguée. Monter une marche, c'était difficile. Mais j'étais dans un tel déni, j'avais une telle force... que je ne me suis jamais évanouie, j'ai jamais voulu la sonde, j'ai jamais... Et là, ils m'ont dit, on va appeler tes parents pour qu'ils te disent au revoir. Et je me suis dit, comment ça? Ils m'ont dit, ben là, c'est possible que tu passes pas la nuit, tu vas mourir en fait. Et on me l'a dit dans les yeux. Et je me suis dit, mais merde! Et en fait, je ne sais pas, pour une fois, on me l'a dit mille fois.
C'est peut-être la meilleure chose qu'ils aient faite, de te dire ça dans les yeux.
Et on me l'a dit mille fois, mais cette fois-là, c'est une infirmière qui était aussi au cadran solaire, qui avait été transférée à Lanval. Je la connaissais, je l'aimais bien. Et elle m'a dit, Marine, c'est sérieux, tu vas mourir. Tes parents arrivent. Et j'ai dit, je peux prendre ton téléphone, je veux appeler ma mère. Je lui ai dit, achète tout ce que tu peux acheter sur la route, c'est fini, je mange.
Mmh.
Et ça s'est fini comme ça. Ma mère est arrivée, j'ai dit, tu me sors de là, ce soir, je pars.
Et c'est fini. Je mange.
Je me rappelle, elle pourrait mieux le raconter que moi, mais elle est partie 4 heures dans le hall de l'hôpital avec mon père pour discuter. Mon père, il se disait, mais t'es malade, tu peux pas la faire sortir. Et ma mère, elle avait cette intuition de, si elle reste, elle va mourir. Si elle retourne, parce qu'il voulait me réinterner en psychiatrie à Lanval, ma mère, elle a dit, on peut pas faire ça. Mon père a accepté.
Et ta mère, t'as une relation exceptionnelle avec ta maman, t'en parles beaucoup.
Ouais.
Et elle te comprend, c'est quelqu'un qui t'a comprise depuis tout le temps.
Hein. C'est vraiment grâce à elle, je pense que je suis encore là. Elle s'est oubliée par contre complètement pour moi. Mais elle m'a... Enfin, s'il y en a une qui m'a sauvée, c'est ma mère quand même.
Qu'est-ce qui fait que quand on est aimé et compris, on a ce désir de disparaître?
c'était pas comme ça quand j'étais enfant. Ça a été, la maladie a tout changé. Mmh. Même mon père, il a changé. Et ce jour-là, il a dit, si tu la sors, je prends 15 jours de congé. Et c'est moi qui lui fais à manger matin, midi et soir. Et matin, midi et soir, j'avais mon père qui m'amenait les trucs les plus gras-gras de...
C'est
vraiment,
fini.
Je m'en rappellerai toujours. Hein. Tous les c'est matins, très, j'avais très un bon pain au chocolat, aux amandes, devant moi, et je devais le manger. Mais j'étais tellement... je pense que j'ai compris qu'il fallait... Enfin, que j'allais mourir.
Tu prenais du plaisir à manger ce qu'on te faisait, ou c'était dur?
Je me rappelle pas, franchement.
Ah, tu te rappelles pas. Je Mais t'es honnête, t'as une telle honnêteté, toi. Je c'est exceptionnel. Vraiment, ça, c'est important, et je pense que les gens vont vraiment s'en rendre compte. Tu parles sans filtre. Ah, oui. Et c'est ce qui m'a vraiment touchée. Quand je t'ai écoutée, j'ai dit, cette nana, elle dit tout. Oui. Mais j'ai jamais vu quelqu'un dire tout à ce point.
Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est encore tabou, et si ça peut aider... les gens qui sont un peu dans cette situation, de se dire qu'ils ne sont pas seuls. En fait, il y a...
Voilà, mais moi... comment ça t'a pris de devenir honnête? Parce qu'on est des menteurs et des manipulateurs. Nous, quand on a eu l'habitude à ce point de se droguer ou de faire des crises en cachette, en fait, et d'annuler tout et de ne plus être là, de ne pas être disponible pour les autres, d'être très égoïste. Comment... bon, continue ton histoire parce qu'elle est... c'est ça, c'est le témoin de ton évolution, ouais. Cette histoire.
Après ça, j'ai quand même voulu passer mon bac, que j'ai réussi haut la main. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas refaire une année de terminale. J'en pouvais plus de Monaco. Me voilà à Paris en prépa, une grande prépa en plus, où je me rappelle, j'avais dit au recruteur de me poser des bonnes questions, parce qu'il me posait des questions pourraves sur la population chine et les lacs, et comment ça s'appelle telle ville, et je lui disais, bon, mais pourquoi vous ne posez pas des questions qui vous intéressent? Genre, pourquoi je suis maigre, des choses... Et en fait, il avait dit, bon, allez, je te prends. Parce que j'avais dit tout ça, je peux apprendre, mais en fait, je m'en fous. Et je me rappelle que j'ai toujours été quand même comme ça. C'est quand tu me parles d'honnêteté, j'ai toujours, malgré la manipulation, le mensonge de l'anorexie, nanana, j'ai toujours eu quand même ce caractère de parler ma vérité, de... Même je retrouvais des écrits que j'écrivais à l'époque, enfermés, etc. Ça me bouleverse tellement. C'est d'une maturité, c'est d'une sincérité. Un jour, j'en ferai sûrement quelque chose de ces écrits, mais c'est...
J'espère, parce que tu parles vraiment avec ton cœur ou ton âme, si on a envie de le dire, mais on sent que c'est pas ton ego qui parle.
Non. Et donc, suite à ça, a commencé les crises de boulimie, parce que je me retrouve quand même dans 12 mètres carrés à Paris, avec un rythme prépa où je ne sais pas me faire à manger, je dois peser encore 44 kilos, et c'est compliqué, je sombre, je pense, aussi un peu en dépression, je pleurais beaucoup, c'était horrible, la culpabilité des crises, et en fait, ces crises, elles sont restées, mais...
Ça, c'était nouveau, la boulimie?
C'était nouveau. Et c'est resté pendant... j'avais 19 ans quand ça a commencé. 18 ans. Et de mes 18 à mes 30 ans, ça a été...
plusieurs fois par semaine et...
À partir de 28-29, ça allait. C'était genre une fois par semaine. Mais il y a eu des moments où je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas être à l'école. Je devais partir. Je ne pouvais pas... Mes amis, ils me disaient, on a rendez-vous à midi pour manger ensemble. Je faisais tout pour me réveiller à 11h45, pour avoir juste à prendre mon sac et partir. Et malheureusement, si je me réveillais à 10h, et que j'avais une heure comme ça devant moi, je ne pouvais pas. Des fois, j'attendais à 6h du matin devant Lidl en bas de chez moi, avec les clochards. Enfin, c'était vraiment... Je suis partie en course nue, sous mon manteau, en plein hiver, sur mon scooter.
T'as mangé des kebabs qui traînaient par terre?
Oui, j'ai mangé des kebabs posés sur des fenêtres à Toulouse. Enfin, non, c'était horrible.
T'as fait Sciences Po, finalement, à Toulouse?
Finalement, j'ai fait Sciences Po. C'était horrible. Et c'était vraiment, j'ai mené à bien mes études, parce que je sais que j'ai beaucoup de capacités. Mais ça m'a pourri la vie. Et c'est comme ça où j'arrive à Los Angeles. Je découvre la cocaïne, mine de rien, qui me permet...
Pourquoi tu vas à Los Angeles?
Pour un stage.
Ah, ok.
Pour l'année de césure de Sciences Po. Puis j'avais envie de voir du pays. Mine de rien, c'est pas anodin. C'est 9 heures de décalage horaire. Tu peux pas appeler tes copains, tes parents. J'étais seule. Et là-bas, personne ne pouvait me sauver. C'est-à-dire que même si je faisais des crises pendant 8 jours, qui c'est qui venait? Ma mère, elle allait pas prendre un avion, payer 2000 euros pour venir me sauver. Oui, quand j'étais à Paris, elle faisait ça, oui.
Tu appelais parce qu'elle savait que tu étais passée du côté de la boulimie.
Ah oui, oui. Et je lui disais, maman, je ne peux plus. Et elle venait. Et en fait, et là, je me retrouve seule. Et je découvre la cocaïne, en fait. je découvre aussi que j'aime les femmes. Donc, en fait, ça, je pense que ça a remis quelque chose en place en moi. Donc, j'ai eu ce truc d'épanouissement. Et je tombe sur une fille incroyable qui avait été anciennement boulimique, anorexique, qui m'a beaucoup aidée. Mais pour elle, aujourd'hui, je m'excuse que ça a dû être assez lourd quand même. Mais voilà, et je découvre la cocaïne qui, mon Dieu, mais magnifique, ça empêche d'avoir faim. Parce qu'au départ, c'est quand même assez efficace pour ça. Donc moi, je me dis, c'est génial, je peux ne pas trop manger et pas faire de crise. Parce qu'en général, quand je me restreignais, après j'avais faim, c'était boulimie, c'était des cercles infernels. J'ai passé 4 ans à manger exclusivement des tranches de dinde et des pommes. Et bien sûr, le soir, à faire des crises de boulimie. Mais je ne mangeais rien d'autre. Tout était un calvaire. Manger avec mes copains au restaurant, je ne pouvais pas. Ça m'a coupé de beaucoup de choses. Et beaucoup de gens m'ont tourné
toi
le dos.
Toi surtout.
Ouais. Et beaucoup de gens, j'étais très seule. Mais parce que...
Les gens ne comprennent pas.
Mais je n'ai pas expliqué. C'est très honteux, tout ça.
C'est toujours honteux, parce que c'est vrai que c'est la nourriture, ce rapport à la nourriture, j'ai l'impression que les gens, même moi, j'ai du mal. J'ai eu toujours du mal à dire que j'avais un problème... avec la nourriture, j'ai jamais connu ce que tu racontes. Vraiment, je suis très étonnée que ça existe. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça génial d'en parler. Mais c'est un problème avec la nourriture. Quand de toute façon, tu fais que penser à la nourriture, tu fais que penser à ton poids, tu fais que avoir l'impression que t'es grosse. Et que quand tu commences à manger une tranche d'un cake breton, et ben, tu le finis. Mm-hmm. Et je vois que mes copines, elles ne le finissent pas, en fait. Ouais. Mais du coup, on n'en parle pas, je ne dis pas. Mais c'est important parce que c'est comme ça, on sort un peu de la honte. Quoi.
Oui, et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de donner, en fait, c'est que je crois qu'il y a une fille sur 5 qui souffre de TCA, et encore les TCA qu'on connaît et qu'on qualifie de TCA. Mais,
parce que l'hyperphagie, c'est nouveau aussi, les gens en parlent maintenant, mais c'est juste qu'on mange jusqu'à avoir des douleurs monumentales, à s'allonger, à rien pouvoir faire, et ces gens-là ne vomissent pas, donc ils sont condamnés à avoir mal, à souffrir, à faire des crises et à grossir.
Mais c'est, tout ça, c'est émotionnel, en fait. Il y a une émotion qui déclenche, ou plusieurs. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est de rester assise dans cette émotion-là. Mais à un moment, en fait, avant de commencer à pouvoir faire ça, il y a eu juste que j'ai décidé d'arrêter d'être une victime. J'ai décidé d'arrêter de... En fait, je me suis rendu compte que j'étais la seule responsable de ma vie. Que, en fait, si j'avais envie qu'elle continue comme ça... Je pouvais faire toujours la même chose, mais que si j'avais envie qu'elle change, ben, il n'y avait que moi qui pouvais décider d'être autrement. Et je pouvais aller voir tous les psys, chamans, énergéticiens, tout. Personne ne peut sauver personne si on n'a pas décidé qu'on avait envie d'aller mieux et qu'on fait les choses. Et en fait, ben voilà, il y a un jour où je me suis dit, ben, tu vois, maintenant, au lieu de le faire de manière superficielle et de te mordre les doigts parce que ça ne marche pas, tu vas mettre tes mains dans le cambouis et tu fais le vrai travail. Et le vrai travail, c'est de plonger en soi, dans ses mensonges, dans ses manipulations, dans son ego, dans les couches de personnes qu'on pense être. Et en fait, ça fait mal, c'est désagréable. Et c'est long et c'est fastidieux et il faut beaucoup de résilience, d'humilité, de remise en question, d'acceptation, de se dire, ben en fait, mes défauts, c'est aussi une qualité dans le sens où personne n'est parfait. Et donc, il y a aussi, parce que dans l'anorexie, il y a cette quête de perfection ultime. Et en fait, non, j'ai des défauts et je les assume. Et petit à petit, en fait, c'est pas à pas. C'est pas au bout d'un mois qu'on se sent comme ça. Mais j'ai travaillé pendant 3 ans non-stop, j'ai arrêté de travailler, j'ai fait que ça, travailler sur moi. J'ai investi énormément sur mon travail personnel. Et aujourd'hui, mais franchement, mais il y a des choses que je regrette dans ma vie, mais pas ça, quoi. Ça m'a sauvé la vie.
Le meilleur investissement à faire, s'il n'est pas sur nous, et il n'est pas sur grand-chose, en fait. Hein. Je pense que... on va vivre avec nous, notre corps, et tous ces traumas et toutes ces névroses, toute notre vie. Je pense que le travail sur soi est obligatoire. Enfin, en tout cas, si on souffre comme j'ai pu souffrir.
Mais je vais même aller plus loin parce que j'en suis persuadée. C'est que pour moi, c'est un cadeau, ces addictions. Je le vois aujourd'hui parce que je ne serais pas cette personne sans elles. C'est-à-dire que ça m'a donné une capacité d'empathie, une capacité de réflexion sur moi, une capacité de rebondir, une force intérieure. Qui en fait, mais il n'y a plus rien qui peut me détruire, qui viendra de l'extérieur. je suis là, je suis moi. Et en fait, le monde, il peut s'écrouler, mais je suis quand même moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotions, que je ne suis pas triste, que je n'ai pas des mauvais jours. Mais c'est que j'ai atteint un endroit, comme si j'avais trouvé ma petite cave intérieure. J'ai rénové, j'ai restauré. Et en fait, bah, quand il y a c'est très d'actualité, mais quand il y a des bombardements autour, je vais dans ma petite cave. Et en fait, je suis en sécurité. Et ça ne veut pas dire que je ne pleure pas. Je pleure énormément, si ce n'est presque tous les jours. Mais en fait, ça m'a donné cette capacité d'être sensible. Et les gens, ils veulent que le bonheur. Ils veulent plus de joie, plus de bonheur. Mais en fait, quand on s'expand dans tous les sens. Donc, on s'expand aussi avec les choses qu'on sent. La tristesse, les choses qui se passent dans le monde, on devient de plus en plus sensible. Et en fait, j'ai appris petit à petit à différencier mon cœur qui est dans l'amour permanent et mes émotions qui sont l'impermanence même. Et en fait, ça a pris du temps, mais quand j'ai appris à dissocier ces deux choses, j'arrive à me dire l'envie d'aller manger, c'est émotionnel et ça va passer. C'est pas permanent. Et c'est là où, à partir de ce pas-là, c'est pour ça qu'il y a des étapes, on peut pas, ça ne sert à rien au départ de s'asseoir dans son truc, on va craquer et on va se dire « je suis nulle ».
Mais concrètement comment on s'assoit là-dedans et comment on le laisse passer?
Parce qu'on a fait un travail avant, qu'on avance et qu'à un moment donné, on est prêt à ça. C'est comme un fruit, un arbre. L'arbre, si on met une graine et qu'on veut récolter de fruits, ça ne marche pas, en fait. Et même si, dès qu'il commence à pousser, on lui arrache toutes ses petites feuilles, on n'aura jamais de fruits. Donc, des fois, la meilleure chose, c'est la patience, c'est de comprendre que le travail prend du temps, que ce n'est pas parfait. Des fois, l'arbre, il va y avoir des orages, il va y avoir peut-être de la sécheresse, il va mettre une saison de plus à croître, nanana. Peut-être ça va mettre 4 ans à avoir un fruit d'autre arbre, ils vont avoir un fruit au bout de 6 mois, on ne sait pas. Mais en fait, il y a un stade de maturation qui, tant qu'on n'en est pas là, ça ne sert à rien. Parce que ça ne sera pas au bon endroit. Et donc, on va faire pour quelque chose d'extérieur. Et ça ne viendra pas de l'intérieur. Et en fait, c'est juste ça, moi, que je retransmets dans tout le projet, dans tout ce que je fais. C'est que ça doit venir de l'intérieur. Et ça se travaille. On ne peut pas dire, tiens, moi, je veux que ça arrive de l'intérieur comme ça. C'est, enfin, ou en tout cas, et comme quand on disait, s'il y a des gens, on a l'impression qu'ils vont tout le temps bien, nanana. Mais il y a des gens, ils ne se posent pas toutes ces questions. Et moi, je me sens vraiment chanceuse. Finalement, d'arriver à mon âge aujourd'hui et de me dire, punaise, mais c'est ouf ce que t'as vécu, en fait. Et t'es là, et tu crées ta boîte, et tu fais tes trucs, et personne t'a détruit, en fait. Et je me dis, mais cette force-là, les gens qu'on pense parfois, qu'ils n'ont jamais de problème ou quoi, quand on parle avec eux, ça, c'est un terrain qu'ils ne connaissent pas. Et c'est la force de l'addiction, c'est qu'on est des personnes sensibles, on est des personnes où il y a quelque chose à l'intérieur qui... C'est pas cassé, c'est juste... Il y a quelque chose à l'intérieur qui demande à explorer. Et tant qu'on va tomber dans la récompense immédiate, facile, de... Oui, mais c'est trop dur, donc je vais manger, je vais consommer, je vais boire, je vais nanana. Ce qui est... Attention, je l'ai fait pendant 15 ans. Il n'y a pas du tout de jugement. Mais en fait, il y a un moment donné où c'est vrai que le ras-le-bol, il doit venir de soi. Il doit venir de... En fait, c'est moi qui suis responsable de mon addiction.
Mais il faut un ras-le-bol, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est très dur de dire à quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter, lui donner des bonnes raisons, des parents qui veulent faire... Ouais. Voilà. On sait aujourd'hui que c'est quand on en a marre d'en avoir marre, il y a un moment, c'est pour ça qu'on dit la volonté n'est pas en jeu, mais un peu, c'est-à-dire au tout début, ce déclic, c'est une volonté de faire différemment, de se dire je veux plus être ça, en fait. Oui, en fait, ça, c'est pas moi, surtout. C'est pas moi et je veux trouver qui je suis.
Oui. Après, avant... Il y a des fois des... Même si j'étais dans le déni, que je voulais pas trop, ma mère, elle m'a amenée quand même voir des gens et tout ça. Et ça m'a quand même mis un pied sur le chemin. Mais c'est vrai. Donc, c'est important quand même d'aider, d'alerter même des gens dans le déni, de les forcer, forcer. D'agiter un peu les drapeaux rouges au bord de la route.
Mettre la graine, justement, de l'arbre. Des fois, il suffit de poser une graine. Ouais. Elle est même pas vraiment plantée. Elle est juste là. Et un jour, elle va peut-être... Se développer et souvent c'est, en tout cas moi je sais que c'est un long chemin et j'y suis encore quoi. Ouais. J'y suis
encore. C'est à vie, hein.
Ouais, complètement.
Mais en fait tout est à l'instant T de toute manière.
Ouais, c'est ça.
Et en fait la vie après elle s'occupe de nous. Ce que je veux dire c'est que bien sûr qu'il y a des choses qui nous atteignent mais c'est extérieur justement. En fait et cette relation à soi-même, c'est comme si on avait construit je sais pas, un pont, quelque chose, une autoroute. Mmh. Et ça,
un canal.
Mmh. Et ça, malgré ce qui se passe à l'extérieur, le canal, il est toujours là, il bougera pas. Et donc, c'est juste que, bien sûr qu'il y a des choses dehors. Mon Dieu, ça me rend triste. Il y a quelqu'un de ma famille qui meurt. C'est pas ça, c'est cette relation à l'intérieur de moi qui peut pas être atteinte. C'est ce
il faut
que
s'accrocher
j'ai construit
à cette impermanence en nous pour supporter l'impermanence de la vie, en fait.
Ouais. Donc voilà, donc je suis à Los Angeles et en fait, je commence à... On me propose gentiment de la cocaïne dans un taxi, je crois, la première fois, avant d'aller en boîte. Et puis en fait, je pensais que c'était un truc de Los Angeles. Et je reviens à Toulouse, du coup, en quatrième année, et je rencontre tout de suite une fille qui arrive et qui m'embrasse et qui me dit « Tu veux une trace ?» Et moi, je me dis « Mais... » folie cet endroit. C'est... Sauf que va s'en suivre, elle est très proche de dealers, etc. Donc va s'en suivre une consommation très facile et assez fréquente. Puis j'arrête un peu, quelques temps. C'est là où. Parce qu'il y a un jour où je crois que je vais mourir. Suite à ça, j'ai pris mes affaires, je suis partie, j'ai effacé, bloqué tous les numéros. Et en fait, je suis rentrée chez moi j'étais en France, mais à Monaco. Entre-temps, je m'étais aussi fait choper par Sciences Po pour usage de drogue. Enfin, c'était un peu compliqué. Du coup, je rentre, il me dit, t'as 6 mois pour te soigner. Donc, c'est là où je commence les AA, NA, nanana, les cercles.
Donc, tu fréquentes quand même les groupes de parole Narcotiques Anonymes?
Ouais, je fréquente les groupes de parole, mais moi, ma vraie drogue, c'est quand même la bouffe, quoi.
Mm-hmm.
Et du coup, j'écoute leur discours et je trouve que, bien sûr, le sevrage, c'est fondamental et je ne remets pas en question...
La sobriété?
Non, et ce qui s'y passe. Mais j'observe. Et j'observe que moi, j'ai le même programme pour la nourriture, mais je dois manger 3 fois par jour. Donc je me dis, bon, si moi, le problème, ce n'est pas la nourriture, j'ai du mal à transposer le fait, pourquoi tu ne peux pas boire un verre alors? Enfin, si moi, je peux manger sans déclencher une crise... Pourquoi, toi, tu ne peux pas boire un verre sans déclencher une crise? Et ça, c'est ma réflexion de... Voilà, j'ai 21 ans, 22 ans, et j'observe juste ça. Et je vois un mec qui avait, je ne sais plus combien d'années de sobriété, qui, on ne le voit pas pendant 1 semaine, 2 semaines. Puis il arrive, et en fait, c'était honteux. Enfin, il y a un truc qui m'a vachement dérangée, c'est que, pour moi, il y a tellement ce truc de... La rechute, c'est un moment où tu redonnes ton jeton, tu repars à zéro. Il y a un truc de... Peut-être c'est mes blessures, mais que moi, je vis un peu comme un truc de d'humiliation, quoi. Genre, tu reviens, t'as la queue entre les jambes et tu dois faire preuve d'humilité. Ce que j'aimais pas, c'est que pour moi, il n'avait pas perdu ses 15 années de sobriété. Et donc, de faire repartir à zéro... Et le mec était vraiment... Il était là, oui, mais en fait, comme j'ai perdu le jeton, je me suis dit foutu pour foutu. Et en fait, il a fini par mettre sa voiture éclatée dans un mur et être 2 semaines à l'hôpital. Et je me suis dit, mais est-ce que aussi... Je sais pas, il y avait un truc qui m'allait pas. Mm-hmm. Et j'ai parlé de ça, et bien sûr, ça n'a pas été...
Ça n'a pas plu.
Non, mais ce que je comprends, en fait, parce que t'as pas besoin d'alcool ni de drogue pour vivre, etc., je l'entends. Mais en fait, pour moi, il y a un truc qui... Il y a un autre truc, quoi, qui
en fait,
qui
ça met la maladie
régler.
De la dépendance au centre, alors que toi, tu penses qu'il y a une maladie qui est en amont.
Ouais. Mm. Mais bon, je repars à Paris et là, en fait, je rencontre le milieu de la teuf. Mais quel meilleur déni que tout ça, puisque tout le monde est pire que toi. Donc, comment tu veux te sentir addict quand c'est juste normal de prendre une trace de kétamine à 15h le mardi parce que c'est trop drôle qu'on ne travaille pas et du coup, on va au supermarché et c'est trop drôle. Et prendre des champignons le dimanche, c'est trop drôle.
Et puis on se sent supérieur aussi aux gens qui travaillent, ont une vie normale.
Moi, je me disais, mais quel tocard tous, mais quel con, ils n'ont rien compris à la vie. Franchement, mais regarde-les, ils ne savent pas s'amuser. Et moi, je me défonçais à l'anniversaire de mariage de mes grands-parents et tout, toute seule. Hein. Mmh. Et personne que ma famille a chanté complètement bourré sur Dalida. Et je croyais que ça m'a... Enfin, et oui, il y a cette légèreté qu'amène la drogue. Et nan, nan. Mais en fait, ça, on peut aussi la trouver à l'intérieur sans produit. Et c'est factice. Et moi, après, j'avais des énormes... Enfin, petit à petit, je me suis mis à des grosses redescentes.
Ça, c'est aussi le truc qui fait... Heureusement qu'il y a ça, parce que j'ai l'impression que les gens n'arrêteraient plus. Mais il y a toujours un moment où tu dis... Ah, mais avant, ça allait, les lendemains, ouais. Ça allait. Et puis, le moment où tu peux plus gérer les redescentes et que tu as vraiment envie de mourir et qu'à chaque fois, c'est le même enfer. Heureusement qu'il y a ça, parce que ça nous donne envie de plus le revivre, quoi.
Ah bah, moi, heureusement que les crises de boulimie m'ont sauvée, parce qu'en fait, à chaque fois que je prenais de la drogue, c'était encore pire. Et du coup, je pense que ça m'empêchait, dans un sens, de prendre plus de drogue. Parce que sinon, je pense que si j'avais pas eu les crises de boulimie, je pense même pas que je serais là pour parler de ce podcast, parce qu'en fait, je pense que j'y serais toujours. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a à la fois mis des barrières, et c'était comme mon garde-fou. Et je pouvais pas aller, parce qu'en fait, je pouvais pas fonctionner comme les autres. Comme moi, je rêvais, hein, des gens qui se tapaient tout et n'importe quoi en soirée, parce que clairement, c'est la polyaddiction, on prenait tout et n'importe quoi comme drogue. Et à la fin, ben, le lendemain, ils sont trop bien. Ils peuvent recommencer. Le week-end d'après, moi, j'avais des deps, mais de l'enfer. Je me suis mis à regarder sur Internet, à acheter du 5-HTP.
Comment mourir,
pour
non,
les... Non, jamais voulu mourir. Mais à prendre des pilules pour réguler ma sérotonine, parce que j'essaie de trouver un substitut pour m'aider à gérer mieux la drogue. Non, mais c'était vraiment... Et j'enviais ces gens. Je me disais, mais c'est pas possible. Et bon, après, j'ai accepté. Moi, je suis pas comme ça. Et en fait, pendant le Covid, je me suis... En fait, j'ai eu 3-4 mois sans drogue. Et je me suis rendu compte comment mon cerveau fonctionnait. Et je me suis dit, putain, waouh. J'avais accès à... Non, mais c'est vrai, hein, j'avais accès à plus de mots, à plus de conscience. Même les couleurs, j'avais l'impression de les voir mieux. Ce que je mangeais, j'avais l'impression que c'était meilleur. C'était fou. Et je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui va pas. Je suis retournée à Paris. Bon, bah, bien sûr... J'ai refait exactement la même chose, pire même, parce que comme ça ne m'apportait plus le plaisir que ça m'apportait avant, je me disais... Et puis un jour, j'en ai vraiment ras-le-bol. J'ai commencé à être très agressive avec la cocaïne. Tout le monde avait tourné à la 3M, moi j'étais encore genre non, je...
À la 3M, la 3MMC,
ouais, ouais,
c'est
ouais.
Ça.
Et moi, ça j'étais vraiment... Mais c'était cher aussi, hein. Enfin, il y a un moment, c'est aussi un budget, hein. Mmh. Et donc...
La nourriture aussi.
Ouais, mais c'est plus cher la coke.
Oui, mais je veux dire, quand tu vas au supermarché trois fois par jour...
Oui, ouais, c'est vrai. Mais bon, là, je gagnais très bien ma vie, je m'en foutais, c'était pas mon problème. Mais quand même, quand je voyais des factures à 600 balles par mois, tu vois, je me disais, oh, quand même, tu vois, genre j'ai dépensé 600 euros, c'est impossible. Mais en fait, ça va vite, si on fait le calcul, deux fois par week-end, c'est terminé, bonsoir. Hein. Et bon, j'aime faire la teuf, j'adore la musique et tout ça, donc à la fois, c'était mon exutoire et à la fois, la culpabilité s'est fait de plus en plus grande et je devenais agressive. Et j'ai été agressive 2-3 fois en soirée et je me suis dit, bon, Marine, stop, ça suffit. Tu peux plus. Et j'ai tout arrêté, je suis partie au Mexique et c'est là où, en fait, j'ai eu 4 mois encore de complète sobriété, donc sur une année, 8 mois quand même.
Wow.
Et du coup, vraiment, je me suis dit, mais c'est ça la vie. C'est là où je me sens le mieux. En fait, j'étais conne, c'est moi qui comprenais rien. Et j'ai vraiment complètement switché de sens en me disant, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et ça a pris du temps, hein, parce que ça ne s'est pas arrivé du jour au lendemain. Je suis quand même fait une retraite d'ayahuasca dans la jungle. La première chose que j'ai fait en sortant, c'est reprendre de la coke à Mexico City, premier soir. Je pense, dans un parcours d'addiction, la croissance linéaire, ça n'existe pas. Donc déjà, faisons la paix avec ça.
Et l'ayahuasca, tu décides de faire des cérémonies. Donc, l'ayahuasca, qui est une plante sacrée, qui t'emmène, en fait, vers toi. C'est soit des entités invisibles qui viennent vous donner des messages, soit votre inconscient, ton inconscient, ta psyché. Il y a quelque chose de très thérapeutique, en tout cas, là-dedans. Donc, ce premier message que tu reçois, c'est celui d'aller soigner des gens dans la jungle. Et toi, ça ne te convient pas?
Bah, je me dis, mais moi, je veux pas faire ça. Je veux être chanteuse, je veux avoir un don. Moi, vraiment,
soigner des gens, c'est un don. Hein.
Oui, mais alors, je le voyais pas comme ça, hein, vraiment. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me dit de soigner des gens? J'arrive même pas à me soigner moi-même. Ça n'a pas de sens, vraiment. Mais en fait, j'ai pas questionné. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. J'avais jamais voyagé vraiment seule. J'étais toujours allée rejoindre des gens quelque part. Je pars. Quelques mois plus tard, je vais dans la jungle, un mois. J'avais juste une adresse sur un papier, je savais rien, j'y vais. Je parle pas la langue, vraiment, je me dis, bon, les gens vont parler anglais, pas du tout. Donc, je comprends rien. On est arrivé par bateau et tout, donc même pas la... Enfin, je suis coincée là-bas. Et les 6 premiers jours, on fait rien. Et je me dis, mais moi, je suis pas venue pour ça, en fait. Je suis venue prendre de l'ayahuasca, les gars, c'est nul. Et au bout du sixième jour, je suis dans la jungle, parce que du coup, moi, je m'ennuyais comme un rat. Hein. Je lisais, on me dit, il ne faut pas lire. Je disais, putain, c'est super long quand même. Enfin, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, ça fait six jours.
C'était une diète avant, après l'ayahuasca.
Ouais. C'était une diète stricte. On a pris aussi plein de plantes hein, qui nous faisaient vomir et tout. Mais moi, j'étais, enfin, vraiment, je ne suis pas venue pour perdre 3 kilos et me faire caca dessus dans les bois. Enfin, je veux dire, j'ai envie de... Non, mais j'ai envie de prendre l'ayahuasca.
Avant l'ayahuasca, il y a déjà des plantes qui font te purger. Ouais. D'accord, mais en sachant que l'ayahuasca, déjà, c'est une purge.
Et en fait, le sixième jour, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis sur un rocher et tout d'un coup, il est midi. En sachant qu'on se lève à 6 heures du matin. Donc, à mon avis, à 8 heures, j'étais sur le rocher. Et je rentre et on me dit, bah, t'étais où? Il y a le déjeuner. Je dis, mais attendez, il est quelle heure? Bah, midi. Et là, je me dis, je suis restée 4 heures sur un rocher. À chanter. Je m'étais mis à chanter tout d'un coup. Et puis, en fait, je vous assure, là, s'ensuit des moments incroyables où je restais toute la journée assise par terre ou allongée dans un hamac à regarder le ciel. Et j'avais pas assez de temps pour penser.
Pour être toi, en fait.
Il est arrivé 18h, je me dis, ah non, il faut arrêter le temps, là. Stop.
C'était... Ça, c'est en relation avec notre joie profonde. Hein.
Ah, c'était fou. Je me disais, punaise, en fait, je pourrais rester là, j'ai besoin de rien. Et bon, après, on ressort. Et là, c'était 2 ans de chaos, hein, clairement. Mais c'est le chemin, en fait. Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que aussi partager. C'est que je crois qu'on se met... On se met un peu encore des il faut. Comme si la guérison, c'était aussi quelque chose de linéaire. Comme si, je sais pas, il fallait encore être soit noir, soit blanc. Et en fait, je pense que le chemin, il est sinueux. Il est compliqué.
Il est en escalier, surtout. On ne monte pas comme ça. On monte, on redescend. Oui. Mais l'essentiel, c'est de voir que quand même, il y a une évolution. Ça.
Et des fois, on ne sait plus où on est. On s'est perdu. On a besoin d'appeler un ami, on a besoin d'une carte GPS, on a besoin de quelque chose. On a besoin parfois de rester quelques jours au même palier, quelques mois, quelques années, de se tromper pour voir que ah ben non, c'était vraiment pas par là le chemin. Finalement, je reprends mon chemin initial. Moi, vraiment, j'ai à cœur de transmettre aux gens qu'on est la seule chose qu'on peut faire, c'est être responsable de notre chemin, d'être conscient qu'on est sur ce chemin-là et en fait, d'accepter que c'est long, d'accepter ce qui arrive et de partager, en fait, d'être authentique dans le partage, de dire « oui, aujourd'hui, ça va pas. Ah, aujourd'hui, tu sais quoi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris un verre et puis finalement, j'en ai bu 10 et je me suis mis trop mal. Mais du coup, j'ai réfléchi, je suis allée méditer ce matin et j'ai compris que c'est parce que dans ma journée, il est arrivé ça. Et puis, il faut que je trouve pourquoi cette émotion, elle est encore liée à ça. Et là, d'aller faire un travail pour juste couper les liens de l'émotion. Alors, je ne dis pas que c'est aussi facile, parce qu'il y a des gens qui sont dans un tel état d'addiction.
Il y a tellement de nœuds, comme tu dis, d'aller couper ce nœud. C'est-à-dire que l'abstinence est nécessaire.
Oui.
Mais on peut aller plus loin. Parce que moi, je suis dans ces pensées-là. Et tout ce que tu racontes me parle énormément, parce qu'en plus, je suis en train de me perdre depuis que j'ai aussi expérimenté ce que tu nous as raconté. J'ai juste une question. Est-ce que tu penses que ce chemin-là, qu'on appelle sinueux et en escalier ou tout ce que tu veux, est-ce qu'il est vraiment propre à des gens addicts ou qui ont quand même ce truc-là? Parce que moi, j'ai l'impression quand même que parfois, quand je t'entends parler, je me dis tout est normal et il n'y a pas à culpabiliser. Mais en même temps, quand je regarde des gens normaux agir et qui ne traversent pas tout ça et qui n'ont pas besoin de souffrir et qui me regardent en disant « encore tu traverses ?» Je ne sais plus quoi penser.
Du coup, j'ai réfléchi aussi à ça parce que je me suis posé les mêmes questions et je pense que tous les addicts se posent un peu les mêmes questions. Pourquoi tout est plus compliqué pour nous ? Mais en fait, moi, je l'ai vu d'une autre manière. C'est que les gens qui n'ont pas d'addiction et qui n'ont pas une conséquence directe ou une douleur directe liée à quelque chose, ils se posent moins de questions. C'est comme si des aveugles disaient à quelqu'un qui voit « Ah, mais tu me saoules à voir des trucs, en fait. » Oui, mais... je vois. Et nous, c'est un peu « je sens ». Oui, mais je... Parce que moi, je pense que c'est ça. Il y a une sorte d'hypersensibilité quelque part ou d'hyper quelque chose quelque part.
Qui réveille l'addiction, en fait, constamment.
Parce que c'est comme un pansement. C'est comme si... En fait, à un moment, c'est pour ça que moi, je travaille avec l'âme et tout ça. Parce qu'à un moment, c'est comme si on était... Moi, je suis allée me guérir à l'intérieur et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être plus alignée. Mais ça m'arrive encore dès que je me... m'enlève de mon centre, dès que j'oublie la vraie raison, dès que je perds mon authenticité, etc., l'addiction, elle vient faire gling-ling, gling-ling, gling-ling.
Sous toutes ses formes, en fait. Hein.
Et du coup, ben... Voilà, alors peut-être, j'en sais rien, qu'est-ce que ça veut dire guérir, j'en sais rien, qu'est-ce que ça veut dire... Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que... Ben, pour moi, j'ai arrêté de me comparer aux autres parce que ben, peut-être que les autres, ils ont moins de conséquences directes. Et donc, peut-être qu'ils vont s'en rendre compte plus tard, mais finalement, ou d'une autre manière, avec...
Ou pas du tout aussi, hein.
Oui, ou pas du tout, mais c'est, en fait... Tant mieux ou tant pis, je sais pas. Mais en vrai, maintenant, on est tous différents. Donc, on est nés avec ce truc-là. Ben...
Et pour une raison. En fait, voilà. Moi, je me suis dit aujourd'hui qu'on ressent qu'on doit explorer ou pas. Maintenant, moi, ce que j'aime dans ton parcours, c'est qu'en fait, il y a une honnêteté et une impermanence en fait, qui vient déculpabiliser, rassurer l'addict que je suis et les addicts qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une solution définitive. Et puis surtout, les réponses, souvent, elles sont mouvantes en fonction de ton parcours et de là où tu en es. Quoi. Donc, si à un moment donné, tu avais besoin d'abstinence avec les narcotiques anonymes comme moi, eh ben, c'est qu'il fallait traverser ça. Finalement, ce juste pour aujourd'hui, ce slogan des narcotiques anonymes t'a énormément aidé.
Ah ben, mais c'est un mode de vie. Et puis, c'est un slogan qu'on retrouve pas que dans les NA. C'est un slogan... de voilà que c'est l'instant présent en fait.
C'est cartelé, c'est le moment présent, évidemment. Et qu'est-ce que finalement, aujourd'hui, tu pourrais dire, qu'est-ce qui t'a sauvé? Parce qu'on a l'impression quand même que l'amour est quelque chose d'hyper important. Moi, j'ai l'impression qu'il faut des déclics et des défis et des choses plus grandes que cette envie de se détruire. Et souvent, qu'est-ce qui est plus fort que tout? C'est l'amour.
C'est vrai. Et je pense qu'il y a eu aussi un engagement envers moi-même. Il y a eu un moment où je me suis dit... en fait, j'ai repris vraiment... Parce que l'addiction, c'est aussi... C'est une sorte de victimisation. Hein. Même si ça va faire grincer des dents certaines personnes. Mais en fait, on se déresponsabilise d'un côté. C'est vraiment... Oui, mais regardez-moi, c'est pas ma faute. Non. Et même si on le conscientise pas, hein, mais parce que, bien entendu... voilà, mais dans cet égocentrisme d'addiction, en fait, on se met en position de victime. Et je crois que pour moi, ce qui me sauve au jour le jour, c'est de reprendre la responsabilité de ma vie, de reprendre, en fait, juste, je ne peux pas me plaindre après. Regardez-moi, j'ai fait une crise, regardez, c'est horrible. J'ai choisi de faire ça. Et en fait...
Ça fera grincer un peu des dents.
Ouais.
Mais malgré
que ce soit inconscient, mais en fait, c'est que...
Il faut être responsable de ses choix quand même.
Oui. Et il faut arrêter de se trouver des excuses. Parce que le jour où tout est aligné, il n'y a plus d'excuses qui vaillent, en fait, ça va. Et donc, c'est pas parce qu'on a pas fait ci, on n'a pas fait ça, nanani, nanana. C'est que des fois, il y a encore quelque chose qui reste à travailler. Et il y en aura toujours. Toute la vie, on sera addict et toute la vie, il y aura des choses à travailler. Et c'est juste que, ouais, pour moi, c'est ce qui m'a sauvée, c'est de rester résiliente, en fait, face à ça. Et surtout, honnête avec moi-même, d'arrêter de me trouver des excuses. C'est vraiment ce qui m'a permis de... Voilà, de me traiter bien.
Oui, se donner de l'intérêt. Oui. Je pense que nous, les addicts, souvent, en fait, se sont tellement dénigrés que souvent, on a l'impression que ça ne vaut pas la peine, ce qu'on désire. Tu dis même prendre de la drogue aujourd'hui et qu'il voudrait boire de l'essence aujourd'hui. Ah ouais. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment cette impression que tu as mis de la conscience sur tout. Est-ce que c'est pareil avec la nourriture, avec l'alcool, avec la drogue? Est-ce que tu arrives à faire les choses en conscience?
La nourriture, parfois, c'est encore un peu difficile. C'est-à-dire que si je suis stressée ou si j'ai peur ou si je veux me saboter, j'ai tendance encore à me pencher sur des petits gâteaux. Mais oui, en conscience, en fait, je sais ce que je suis en train de faire.
Et surtout ce que ça va impliquer.
Et ce que ça va impliquer.
Un petit truc comme ça qui m'est venu au fil du temps, et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que j'ai plus conscience, c'est que j'arrive à voir le film jusqu'au bout.
Ouais.
Donc avant, je voyais le truc genre, je suis énervée, j'ai envie de ce truc, je vais le faire. Et je voyais le film que jusque-là. Ça va m'apaiser, ça va me faire du bien. Mais c'est pas moi qui cherche à aller voir le film jusqu'au bout, mais tu te rends bien compte de ça, en fait. C'est pour ça que tu parles d'essence. C'est que j'arrive à voir le film jusqu'au bout, de voir que oui, la cocaïne, c'est de l'essence, hein, c'est du kérosène, et que ça va me faire énormément de mal, que demain, ça va être un enfer, que je vais manger pendant 3 jours. Ouais. On voit tout le reste. Et ça, on ne décide pas. J'ai l'impression que ça arrive un beau jour.
C'est vrai que c'est... Je ne pourrais pas te dire quand est-ce que c'est arrivé, parce qu'il y a encore un an et demi, j'étais à Mexico City et moi, au lieu de faire le Mexico City spirituel, pourtant, c'était après la jungle, c'était après tout, c'était déjà en plein milieu de mon éveil. J'ai juste reproduit ce que j'ai fui à Paris, au Mexique. Hein, c'est-à-dire que à Paris, je disais c'est la faute de mon entourage ou c'est la faute de ci ou de ça. Nanana, y a personne qui m'a aidée pour me faire le même entourage à Mexico City. Hein, c'était moi en fait.
Cette honnêteté, en fait, c'est ça qui vient mettre de la conscience.
Ouais.
Parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas honnête avec soi-même, moi, je le sens. Hein. Je sens vraiment oui, les moments où ça flanche. C'est vraiment quand tu te mens à toi. En fait, les autres, on s'en fout.
Mais des fois, c'est dur. Tu te rends pas compte tout de suite. Et il faut être aussi OK avec ça. En fait, on n'est pas Dieu, on n'est pas des super-héros. On est humain.
C'est vrai que parfois, on s'élève et on a l'impression qu'on décolle. Mais malheureusement, le matériel nous rattrape. Il va falloir qu'on gère avec ces addictions encore et toujours. Et en tout cas, ce que j'ai envie de dire par rapport à ton expérience, c'est vraiment qu'on sera toujours addict, entre guillemets, mais qu'en fait, il ne faut pas désespérer que c'est de mieux en mieux, en fait, quelque part. Si on travaille, c'est de mieux en mieux.
Pour moi, c'est vraiment de mieux en mieux. Et c'est même encore plus que ça. C'est que comme si petit à petit, je découvrais en moi les trésors qui était venu combler l'addiction que je n'avais pas la conscience pour découvrir plus tôt. Je ne sais pas, c'est comme si l'addiction avait gardé des parties de moi qu'aujourd'hui, en faisant ce travail et en étant... Mais par contre, c'est du boulot, hein. Ça a été de l'investissement. J'ai dépensé de l'argent pour me soigner. J'ai dépensé du temps. Moi, pendant 2 ans, j'ai mis ma vie en pause pour faire que ça.
C'est ça que je voulais te demander. Quelles sont tes contre-addictions?
Ouais,
puisqu'on est dans ce podcast, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu arrives à te nourrir d'autre chose que de la drogue?
Je m'écoute, en fait. Je fais vraiment ce qui a du sens pour moi. Je ne me force plus. J'ai coupé aussi certaines activités de ma vie. Pendant des moments, j'ai coupé avec certaines personnes de ma vie. Il y a certaines que j'ai coupées tout court. En fait, je me suis priorisée et j'ai été consciemment égoïste en fait pendant un moment parce qu'il fallait que je me préserve. Et puis petit à petit, ça s'ouvre en fait. Petit à petit, j'ai dépassé cette solitude mais je me suis soignée en fait. Je me suis soignée et je me suis engagée dans ma guérison parce que on peut consommer plein d'offres spirituelles, plein d'offres de guérison, plein d'offres de ce qu'on veut, mais si on le fait pas avec le cœur, si on le fait pas vraiment avec la résilience de se dire « je le fais vraiment ».
Ça reste de la consommation.
Voilà. En fait, moi, pendant des années, je me suis dit « je faisais mes petits trucs, ma petite routine », et je me disais « mais c'est de la merde, ça marche pas », mais je l'ai jamais vraiment fait. Et en fait, d'essayer vraiment, ça marche. Enfin, pour moi, ça a marché quand je l'ai fait avec le cœur.
Dire des belles choses.
Ouais, mais tout, hein. Voilà, je vais me dire « Ah, t'es trop belle le matin », mais je vais me le dire vraiment sans même me regarder dans un miroir avec le toucher de ma peau, de me dire « Tu mérites de passer une belle journée ». Et après, il y a des jours où j'y arrive pas. On va dire qu'il y a de plus en plus de jours où j'y arrive et moi, c'est comme ça que je vois le positif. Et oui, enfin, aujourd'hui, je suis vraiment pleine d'espoir sur l'humanité. On est humain, on fait des erreurs, mais les erreurs, elles font partie de l'expérience, elles sont belles. Et il faut arrêter de se blâmer, de se culpabiliser ou de penser qu'on doit rentrer dans une boîte. Ça, c'est encore des fausses croyances. En fait, la boîte, c'est nous. Et point. On crée notre propre boîte. On s'en fout qu'on ne soit pas comme son voisin, encore heureux. On est tous uniques, on a tous un don unique, on a tous des capacités uniques. Et la société, elle essaie de nous mettre tous pareils. Et c'est impossible, impossible. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit déconstruire ça à l'envers et cultiver ce qui nous rend différents, cultiver ce qui nous passionne, cultiver, je sais pas, mais si on aime peindre avec une pomme de terre, mais faisons-le en fait. Pourquoi on doit tous se mettre à faire de la céramique parce que tout le monde fait de la céramique? Mais si toi, t'as envie de faire de la pâte à modeler et que t'as 40 ans, ben fais de la pâte à modeler, mais on s'en fiche. Moi, des fois, pendant longtemps, j'ai fait des Scooby-Doo, tu vois, mais jusqu'à tard, et ça m'a plu. Mais après, c'était pas une passion, quoi, mais je sais pas, il faut arrêter, je trouve, de se mettre des barrières. On se met beaucoup de barrières, comme si les adultes, ils ne pouvaient pas jouer. Moi, voilà, les cours de danse...
On nous répète aussi, tu as 45 ans, tu vas encore essayer une formation. Ouais. Bah, en fait, on est là pour apprendre, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi il faut avoir un métier, puis bouger? Puis de toute façon, les choses bougent tellement que les métiers changent aussi. Donc, moi, je pense... Et comment justement, toute cette expérience maintenant, tu la mets dans ton nouveau métier d'aujourd'hui, on va dire, celui qui est de sonothérapeute?
Oui, en fait, aujourd'hui, j'ai créé un centre... Justement, c'est le centre que j'aurais aimé avoir, moi. C'est-à-dire un endroit où on s'engage vraiment dans son mieux-être. Moi, j'ai à cœur de redonner la responsabilité aux gens, justement, dans leur parcours. Et pour ça, il faut travailler, en fait. Pour ça, il faut revenir. Pour ça, il faut être consistant. Si on vient une fois par mois, ça ne sert à rien. Ou si on vient que quand on ne va pas bien, ben, on manque une partie du travail. Alors, c'est peut-être une accroche positive. Mais moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est ça. C'est qu'on peut vraiment s'en sortir de tout. On peut vraiment aller mieux. On peut vraiment apprendre à se connaître. On peut se reconnecter à son corps. Et du coup, j'ai fait un lieu qui à la fois nourrit l'âme, reconnecte au corps et permet aussi de régénérer le mental et de reprogrammer le cerveau d'une certaine manière.
De quelle manière exactement avec le son ?
Alors le son, ça régénère le système nerveux déjà, donc c'est hyper important.
On a eu un très bel épisode avec François-Marie Dru sur la sonothérapie.
Mais aussi, moi j'ai fait une formation de coaching, spécialisée en neurosciences, qui va aider à reprogrammer le cerveau avec des choses positives. Et la première chose qui aide, c'est la répétition, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Aime en plus quand on est addict, la répétition.
Ben ouais. Moi, je prends l'exemple du marathon. Tous les gens qui vont s'entraîner, ils ne courent pas 42 km la première fois. Ils y retournent, et encore, et encore, et encore. Et s'ils s'arrêtent un mois, eh ben, ils recommencent. Parce qu'ils vont quand même pas... Après un marathon, ils s'arrêtent et ils veulent courir le deuxième l'année d'après. S'ils ne se sont pas entraînés, ils ne courront jamais. Ou alors, ils vont se faire mal ou se dégoûter. Mais c'est pareil. En fait, aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas le temps de prendre soin de sa santé mentale. Mais si on prend soin de ça, si on... C'est horrible ce que je vais dire, mais si on est heureux à l'intérieur, un, ça se voit à l'extérieur. Deux, on glow, en fait. On a moins besoin de tous ces trucs factices pour se sentir mieux. On se sent mieux avec nous-mêmes. Et trois, et ben, oui, c'est vrai, c'est un investissement, mais en fait, c'est la première chose sur laquelle on devrait investir. Et aujourd'hui, j'ai envie de transmettre ça parce que pour moi, ça a changé ma vie. Et je pense, sans vouloir rentrer dans le dramatique ou quoi, je pense que je me serais foutue en l'air sans ça à un moment donné. Parce que je ne trouvais plus le sens. Je ne trouvais plus la sortie. Et ma sortie, ça a été vraiment... prendre soin de moi, en fait. Et aujourd'hui, on prend soin de soi de manière, je trouve, trop extérieure. Alors que la plupart du temps, prendre soin de son âme, prendre soin de son corps, mais à l'intérieur, prendre soin de ses énergies, prendre soin de aussi se faire nettoyer de temps en temps. Parce que souvent, quand on est addict, on a aussi des éponges, on est plus sensible. Et du coup, on absorbe l'énergie du collectif. Et juste d'aller faire une session de bol, de reiki, un massage, en fait, ça nettoie et on se retrouve qu'avec nos propres énergies. Et rien que ça, c'est un moment de répit, en fait.
C'est ça qu'on aime aussi ici. C'est un podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et on a hâte de venir te voir à Human Project. On peut le trouver sur le site Human Project.
Oui, on peut trouver sur Instagram et sur le site humanproject.com. Et puis, voilà.
Je te souhaite de continuer dans ta lancée, dans cette ascension non linéaire, et de continuer à nous apporter aussi ta lumière. À très bientôt.
Merci.
Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradictions.